Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Bartas, c'est l'heure de votre programme Société et aujourd'hui nous vous proposons une émission produite et réalisée par l'ADEAR, l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural en Lozère, dans le cadre de ses actions en faveur de la transmission des exploitations agricoles. Cette émission s'inscrit dans un travail de fond mené par l'ADEAR 48 depuis plusieurs années autour de la transmission et de l'installation agricole en vue de contribuer à une réflexion collective sur le renouvellement des générations en agriculture. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Kumars Shohara sur Radio Bartas.
Les fermes continuent, créer, reprendre ou s'associer, les chemins de l'installation agricole. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce podcast réalisé à partir de témoignages paysans et celui de notre accompagnatrice à l'installation et la transmission, Mathilde Coats. Quand on s'installe en agriculture, aujourd'hui, faut-il créer sa ferme ou en reprendre une? En France, l'agriculture est à un moment charnière. Chaque année, environ 21 000 agriculteurs et agricultrices partent à la retraite alors qu'il n'y a environ 14 000 nouvelles installations. Autrement dit, toutes les fermes qui disparaissent ne seront pas remplacées. Et dans les 10 prochaines années, le phénomène pourrait encore s'accélérer. Près d'un agriculteur sur deux devrait partir à la retraite d'ici 2030, nous apprend le ministère de l'Agriculture. Pourtant, de nouvelles personnes continuent de s'installer. Et aujourd'hui, la majorité des installations se fait hors cadre familial. Des personnes qui arrivent dans l'agriculture sans reprendre la ferme de leurs parents. Alors une question se pose. Quand on s'installe, faut-il créer sa ferme de toutes pièces ou reprendre une activité existante? La reprise peut offrir un outil déjà en place, des terres, des bâtiments, parfois une clientèle et un ancrage sur un territoire. Mais elle peut aussi soulever des freins, le poids de l'investissement, l'adaptation d'un outil existant ou encore la rencontre entre deux projets, celui du cédant et celui du repreneur. On parle souvent des cédants ou des personnes qui s'installent, mais on entend finalement assez peu les raisons qui poussent certaines personnes à reprendre une ferme ou à ne pas le faire. Alors nous sommes allés poser la question à des paysannes et des paysans en cours d'installation ou déjà installés qui ont fait des choix différents dans leur parcours. Dans cet épisode, nous leur laissons volontairement beaucoup de place. Leurs propos leur appartiennent et notre regard peut parfois être un peu différent, mais il nous semblait important de donner la parole aux premiers concernés, les paysannes et les paysans. Nous avons également interrogé ma collègue Mathilde Coats, accompagnatrice à l'ADEAR de Lozère, pour éclairer ses différents parcours. Et je suis Kumars Shohara, animateur réseau à l'ADEAR de Lozère, structure associative où nous proposons des accompagnements à l'installation, à la transmission et des animations de territoire en lien avec ces thématiques et sur l'ensemble du département. Bonne écoute!
Alors moi c'est Maxime, voilà, je suis arrivé en Lozère en 2017, j'étais originaire du Vaucluse, je faisais pas du tout ça avant, j'ai travaillé à Grenoble comme technicien chimiste pendant une quinzaine d'années, et donc on s'est installé au Vernède, à un quart d'heure de Florac, pour ma part après un an de travail en groupement d'employeurs agricoles, et donc en chèvre laitière, en chèvre du Massif Central, donc on fait du fromage de chèvre principalement.
Donc on va tout juste commencer notre production cette année. On est installé officiellement depuis avril 2024. Et les affres de l'administratif et la construction de la fromagerie qu'on a bâtie nous-mêmes ont pris un peu de temps. Ce qui fait que, voilà, ça y est, les fromages arrivent.
Alors nous, on est sur un entre-deux en fait, parce qu'on s'installe chez quelqu'un. Qui n'a pas totalement terminé son activité, donc il y a un tuilage en fait sur la transmission, donc qui nécessite une cohabitation pour le coup. Donc on a la plupart des terrains, enfin même tous les terrains en fermage, et on se partage le bâtiment d'élevage. Voilà comment on a décidé, comment on a pu en fait tous ensemble faire cette transmission.
De plus, notre propriétaire était en brebis viande et du coup, nous, il y a eu tout, comme je le disais précédemment, toute la construction de l'atelier pour pouvoir faire du fromage. Donc, il y a une partie de création quand même de dans l'activité?
Alors en fait, on recherchait, moi j'ai travaillé dans cette vallée quand j'étais ouvrier agricole, et c'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de cette vallée-là particulièrement en fait, et on a commencé à prospecter. Et au final, c'est nos cédants qui nous ont appelés. Et donc on s'est mis d'accord sur les modalités de la reprise. On n'a pas passé un temps énorme en fait à chercher des fermes qui correspondaient exactement à un cahier des charges. On était assez adaptables en fait de chaque côté. C'est plutôt les événements qui ont dicté la manière dont on fait la reprise plutôt que l'inverse. J'ai entamé la reprise par un stage CEFI, un stage parrainage chez nos cédants, qui était suivi par la chambre. Après, sur notre installation en elle-même, nous on s'est tourné vers l'ALODR à l'époque, donc ADR 48 aujourd'hui. Je pense que c'est un excellent choix parce que ça nous a vraiment bien débroussaillé le chemin, parce que même quand on prévient en disant attention, vous savez, au niveau administratif, l'installation c'est assez costaud, moi je me pensais prêt. Vraiment. En réalité, on découvre des choses quand même pendant l'opération, on va dire. Et même quand on est prêt, ça reste une épreuve et il faut se faire accompagner. C'est clair et net.
On a cru anticiper, on a joué au plus malin. On a pris nos premières chèvres, on n'était pas du tout installés. Ils nous avaient laissé déjà une place dans le bâtiment. Et on s'est dit, ouais, c'est trop bien, on va gagner un an. Mais que nenni. C'est pas possible. Il faut de toute façon au moins une année pour... ne serait-ce que pour appréhender le troupeau, appréhender les terres, et je pense que ce soit sur une reprise, c'est peut-être un peu plus rapide, encore que je ne suis pas certaine. Mais voilà, il y a beaucoup trop de choses, même quand on est expérimenté, à prendre en main avant de pouvoir rentrer en production, en activité complète. Et voilà, on a voulu brûler des étapes, et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement à nos dépens que non, les étapes ne se brûlent pas.
Moi, pour ma part, je dirais écrivez tout, même ce qui vous semble trivial en fait, mettez-vous d'accord sur tout. Parce que tout ce qui a été écrit et marqué en fait et enregistré, ça rappelle à chacun en fait les engagements qu'ils ont pris. Les gens sur 6 mois, sur 1 an, ils peuvent changer d'avis en fait. Et il faut que les règles soient écrites à la base. Et je pense que l'erreur qu'on a tous fait, c'est peut-être de pas assez écrire certaines choses. Et résultat, ça crée des zones de flou et ça peut créer des tensions à terme. Donc faites-vous accompagner et vraiment écrivez tout, quoi.
J'insiste sur le faites-vous accompagner. Vraiment, il y a des gens qui sont là. Parfois, leurs services sont payants, parfois non. Mais il existe des organismes qui sont là pour vous aider, pour vous aider à faire les bons choix aussi, à faire le tri dans ce qui est... bénéfique, risqué ou autre, et aller voir les ADR, aller voir AgriJury, aller voir la chambre, sollicitez-les, parce que vraiment ils peuvent être un pilier.
Je m'appelle Raphaël, je suis maraîcher et myciculteur à Florac-Trois-Rivières dans les Cévennes, en Lozère. Je produis des légumes de saison et surtout maintenant du pleurote et du shiitake. Je suis arrivé en Lozère après pas mal d'expérience en agriculture. Et je me suis d'abord mis dans un projet d'installation commune avec un maraîcher déjà en place. Ça n'a pas fonctionné pour des raisons humaines, mais je me suis retrouvé à mon compte avec quelques petites associations de projets, mais qui n'étaient pas formalisées. Donc je suis à mon compte depuis 2 ans maintenant, et je fais principalement du champignon comestible. Dans mon cas, la myciculture, c'est quand même quelque chose de très particulier qui demande des outils et du bâtiment spécifique. Et du coup, c'est difficile de trouver une ferme qui présente ces caractéristiques-là. Après, je pense aussi que j'ai été très prudent dans mon installation. Je voulais pas faire exploser les charges et lâcher le billet qu'il faut pour reprendre une ferme, c'est un peu stressant et donc j'ai dû d'abord apaiser ces peurs-là. Je menais à chaque fois qu'il y avait des accompagnements, des dossiers administratifs à faire, Revenu écologique jeune, qui m'a beaucoup aidé à mon installation en Occitanie, et du coup c'est l'ADR qui s'en est chargé, ça a été très rapide. Et puis là, je me sens prêt à franchir le pas pour demander une DJA et investir, et c'est aussi l'ADR qui va m'accompagner. Comme c'est quelque chose de très spécifique à la myciculture, c'est difficile de trouver quelqu'un à l'ADR ou ailleurs d'ailleurs, de spécialiste de cette pratique, mais ça a toujours été des bons échanges en tout cas. Aujourd'hui, je ferai beaucoup plus de pratiques et de stages et d'échanges d'expériences dans des fermes pour pouvoir niveler un peu cette différence entre ce que j'ai romantisé et puis ce qui est la pratique réelle de cette culture. Et puis j'aurai moins peur d'investir, du coup. C'est principalement ce que je donnerai comme conseil. Faut pas avoir peur d'investir pour éviter de se ruiner la santé. Moi, j'ai commencé par assurer un chiffre d'affaires avec l'achat de substrat. Je l'assume parce que aujourd'hui j'ai un chiffre d'affaires qui est stable et je peux me lancer sur la préparation de mon substrat maison. Et ça, c'est pas possible de faire les deux en même temps, ou très compliqué.
Je m'appelle Mathilde Coat et je suis salariée à l'ADR 48 depuis plus de 6 ans. Donc, et à l'ADR de Lozère, je m'occupe de l'accompagnement individuel à l'installation et à la transmission, sur tout le département. On parle de cédants, donc c'est soit des personnes qui vont partir à la retraite, soit des personnes qui souhaitent arrêter leur activité parce que changement de carrière professionnelle, de projet de vie. Voilà. Donc il y a différents cas. Et donc, tout d'abord dans l'accompagnement individuel à la transmission, l'idée du premier rendez-vous, c'est déjà d'être sûr de comprendre les attentes et les problématiques des cédants, et d'où ils partent aussi, qu'est-ce qu'ils pensent aussi, ce que c'est l'accompagnement à la transmission, ce qu'ils en attendent. Ça permet de pouvoir repréciser et de clarifier aussi là où nous on va pouvoir intervenir et probablement falloir faire appel à d'autres interlocuteurs. Voilà, déléguer certaines compétences. Donc une fois qu'on a reclarifié un peu le cadre de l'accompagnement à la transmission, l'idée c'est de refaire un état des lieux de la ferme. Là bien sûr c'est quoi les activités, qui travaille sur la ferme, comment c'est commercialisé, etc., la structure foncière. Mais il y a aussi rebrosser un peu le passé de la ferme, comment les cédants eux-mêmes se sont installés. Tout ça, ça peut aussi amener à se re-questionner sur la transmission, sur ce qui est possible de faire à la ferme, ce qui a évolué, enfin les évolutions passées et les évolutions du coup possibles. Et une fois qu'on a refait tout cet état de lieu assez approfondi, donc à la fois technique et aussi économique, c'est aussi de se poser des questions de comment on va pouvoir transmettre les modalités, donc que ce soit juridique, fiscal, le profil du repreneur, les possibilités sur la ferme. Et donc souvent tout ça, ça mène à une annonce qu'on va diffuser. Après, il y a tout un travail de communication et de diffusion. Et ensuite, il y a la mise en lien, si des porteurs de projets nous contactent, entre les deux parties. Et parfois, il faut revenir un peu sur l'annonce, réviser ce qu'on attend des porteurs de projets. Enfin voilà. Sur l'accompagnement à l'installation, on a un public, beaucoup de personnes qui sont non issues du milieu agricole et parfois qui ne sont pas issues du territoire aussi de Lozère, donc qui n'ont pas forcément un ancrage fort ici. Après, il y a des personnes qui ont déjà du terrain, donc c'est un accompagnement à la création plutôt d'entreprises, enfin d'activités agricoles. Et les personnes après qui vont chercher du foncier, donc là, soit il y en a certaines qui savent déjà clairement si elles veulent créer leur ferme,
un peu entre guillemets de zéro, ou si elles veulent plutôt faire une reprise de ferme. Et donc là, forcément, on va essayer de les orienter vers nous, les personnes qu'on connaît qui veulent céder leur ferme, et essayer de faire du lien entre eux. Voilà, ce qui n'est pas toujours évident, et des fois, ça ne correspond pas tout à fait les projets des uns et des autres. C'est toujours une bonne chose de rencontrer le plus possible des potentiels porteurs de projets quelques années avant sa transmission. Pas forcément des porteurs de projets qui vont être intéressés par sa propre ferme, mais ça permet un peu de sonder quelles sont les attentes de la nouvelle génération pour mieux comprendre leurs attentes. Les reprises dans le cadre familial sont moins fréquentes et suffisent pas en fait à remplacer tous les paysans qui partent à la retraite notamment. Et donc c'est souvent des profils hors cadre familiaux et donc qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes, la même culture disons aussi du travail agricole. Voilà. Mais c'est aussi des visions qui sont bonnes à écouter, qui sont intéressantes sur plein d'aspects. En complément, ce serait de dire qu'on peut donc aller à des rencontres organisées. Ça peut être aussi de recevoir des porteurs de projets chez soi. Donc ça peut être lors de stages, d'embaucher des personnes. Voilà. Et donc ça permet aussi, parce qu'il y a toute une partie souvent à la transmission, on travaille ensemble, cédant et porteurs de projets. Donc travailler ensemble, ça veut dire apprendre aussi à transmettre son savoir-faire. C'est pratique, donc il faut un peu tout expliciter. Et ça, c'est pas des choses qui sont innées. Voilà, ça se travaille aussi, le fait d'expliquer ses choix. Et les porteurs de projets posent beaucoup de questions. Et des fois, ça peut être aussi des moments de remise en question pour les cédants, qui sont pas toujours faciles.
Allô ?
Allô, bonjour, je suis bien à l'ADR de Lozère ?
Oui, tout à fait.
En fait, je vous appelle parce que j'ai un projet d'installation, enfin peut-être une reprise de ferme en collectif, et je voudrais avoir quelques renseignements. Est-ce que c'est possible ?
Oui, tout à fait. Alors, je peux vous donner des premières informations ici. Et notre prochain accueil collectif a lieu la semaine prochaine. Et à cette occasion, ma collègue Mathilde pourra vous donner toutes les informations. Je vous donne la date ?
Ah oui, je veux bien, merci beaucoup.
Ne quittez pas, je vais vous la donner tout de suite.
Les porteurs de projets qui cherchent un lieu où s'installer, en tout cas en Lozère, là, souvent la première chose qu'ils disent quand on leur parle de reprise, c'est ah, attention, ça va être trop compliqué, il y a le facteur humain, c'est trop compliqué de s'entendre, donc on préfère, entre guillemets, simplifier la tâche et créer notre propre ferme. Et après, les reprises de ferme, des fois, sont plus adaptées sur certaines, plus pratiques, je sais pas, sur certaines productions. On va plus trouver des reprises de ferme en élevage plutôt qu'en production végétale, parce qu'en élevage il va falloir monter des bâtiments, acheter un cheptel, il y a plus d'investissements, donc parfois c'est quand même plus simple de reprendre une ferme, voire de faire de la location. Moi j'ai une liste en fait de porteurs de projets qui cherchent du foncier, donc l'idée c'est dès qu'on a nous une piste d'une ferme qui serait potentiellement à reprendre, c'est de leur communiquer. De manière plus ou moins large, en fait. Des fois, les porteurs de projets, ils ont aussi des critères bien spécifiques. Bon, j'essaye d'élargir un peu parce qu'il n'y a souvent rien qui correspond à des projets très, très. Avec beaucoup de contraintes, quoi. Quand je reçois des porteurs de projets, c'est aussi le moment de bien reclarifier qu'est-ce que c'est le métier de paysan, que c'est pas seulement la technique, mais c'est aussi plein d'autres tâches, activités, notamment la commercialisation, l'administratif, potentiellement de la transformation, enfin la santé des animaux par exemple. Donc voilà, tout ça c'est un peu des métiers différents qu'il faut souvent maîtriser. Et donc pour ça, ça aide quand même beaucoup d'avoir en fait un réseau quand on arrive sur le territoire, donc un réseau de paysans, bien connaître les structures qui peuvent soutenir ou contacter, enfin les personnes un peu ressources quoi. Et donc ça, c'est quand même beaucoup plus facilité quand on arrive sur une ferme à reprendre, puisque le paysan déjà en place, ou la paysanne, connaît déjà du réseau, que ce soit la clientèle, les personnes ressources en fait, à contacter, les collègues en fait, qui peuvent lui filer des coups de main si besoin, ou l'aider sur des questions administratives, il y a un peu tout ça. C'est quand même la reprise, c'est quand même se faciliter l'installation sous beaucoup d'aspects. Il y a aussi tout l'aspect financier du début de l'installation. Si on prend une ferme qui est déjà en fonctionnement, bon, ça coûte peut-être parfois un peu plus cher à reprendre parce qu'il y a tout l'outil de production en place. Par contre, il y a un revenu. Dès la première année, on peut envisager de se sortir un revenu, ce qui n'est pas le cas dans les créations où c'est quelques années de galère et de très faibles revenus le temps que sa production soit mise en place. avec en parallèle tous les investissements, toutes les charges à financer. Un peu le discours qu'on peut avoir avec les porteurs de projets, porteuses de projets, c'est de clarifier leurs objectifs, pourquoi ils veulent devenir paysans, paysannes. Parce que souvent, c'est des projets professionnels, mais c'est aussi des projets de vie. Et dans ce cas-là, c'est souvent plus compliqué de s'adapter à des projets déjà existants, des fermes déjà existantes. Peser un peu les pour et les contre d'une création, d'une reprise. Voilà, c'est dans des termes de temps de travail, de revenus, beaucoup de choses qui facilitent la vie, versus les grosses difficultés, les galères des premières années d'installation quand il faut tout créer, construire les bâtiments, mettre en culture, faire les clôtures, choisir son troupeau, etc. Donc, souvent en parallèle de projets de vie aussi et familiaux. Et bien évidemment, il y a l'aspect humain et tout ça, ça peut se travailler. Il y a aussi des structures, des ressources qui existent pour travailler ça, l'organisation en collectif. Voilà, le tout, c'est de s'être fait accompagner ou de s'être renseigné ou d'avoir discuté en tout cas avec l'autre partie sur tous les aspects d'organisation, notamment, et aussi d'argent, parce que c'est peut-être des sujets un peu parfois qu'on évite jusqu'au dernier moment, mais ça peut être aussi des sujets de crispation. Voilà, tout ce qui est temps de travail et revenu.
C'était Les Fermes Continues, créer, reprendre ou s'associer, les chemins de l'installation agricole. Donc un podcast réalisé à partir de témoignages paysans et celui de notre accompagnatrice Mathilde Coate. Merci à Maxime, Louise, Raphaël et Mathilde d'avoir accepté de témoigner à notre micro. Merci à François pour son accompagnement à la création du podcast. Et enfin, merci à la sonothèque de Joseph Sardin pour les sons additionnels. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant les accompagnements à l'installation et à la transmission de l'ADR de Lozère et toutes ces dates d'animation sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux ou en écrivant un mail à adr48@jeminstallepaysan.org. À bientôt pour de nouveaux épisodes.